Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omani kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Sacré voyage dans le temps que nous vous proposons cette semaine. C'est aussi une introduction à une série d'émissions que nous allons consacrer à l'histoire de la communauté noire dans le sud des États-Unis. L'une des grandes figures de l'Amérique noire au début du XXe siècle s'appelait Bessie Smith. Son épopée tumultueuse nous est contée dans un livre remarquable paru chez Castor Music et signé Stéphane Quéclin. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes un fin connaisseur de la culture africaine-américaine. On vous doit de nombreux ouvrages dédiés aux légendes d'antan, John Lee Hooker, James Brown, Jimi Hendrix, Michael Jackson, pour ne citer que. Mais je dois avouer avoir été conquis par votre portrait de l'impératrice du blues, Bessie Smith, qui dépasse d'ailleurs la simple biographie. C'est le roman d'une époque que vous suggérez tout au long de ces 300 pages?
Oui, parce que je pense que c'est un symbole, c'est un mythe, et autour de là s'agrège quand même beaucoup de choses. C'est une époque avec l'invention du Kleenex, la traversée de l'Atlantique par Lindbergh, la musique aussi, le disque, l'industrie du disque qui vraiment commence à s'épanouir à ce moment-là.
La radio qui commence
également. La radio, l'invention des tabloïds, de cette presse à scandale qui raconte l'intimité des actrices hollywoodiennes, parce qu'il y a aussi la naissance du cinéma, avec les stars de l'époque d'Hollywood, et puis la starification aussi des musiciens, des artistes, des chanteurs et tout ça. Donc c'était vraiment une époque très très intéressante.
Au-delà du contexte social, racial et politique de l'Amérique des années 20 et 30, qu'est-ce qui vous fascine dans la personnalité de Bessie Smith?
Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est une femme libre. D'abord, c'est une féministe qui est à la fois dominante et dominée. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup en ce moment, évidemment, des rapports entre hommes et femmes. Et elle arrive à finalement repousser les hommes, les dominer. Et en même temps, elle est dominée par son amant qu'elle adorait, c'est Jack G. Jr., qui était une sorte de flic totalement ringard, médiocre, et qui finalement a profité d'elle. Donc, elle est à la fois une femme d'une personnalité absolument extraordinaire, volcanique, mais elle sait en même temps être très douce, très suave. Et Mesmerot, qui était un musicien des années 20 et 30, avait raconté dans La Rage de Vivre qu'il avait rencontré Bessie Smith, il l'avait vue au Paradise Gardens à Chicago, et il disait « Cette femme-là incarne pour moi toute la féminité du monde, c'est un merveilleux coulis de miel, et en même temps c'est une femme volcanique. » Et donc ça m'a fasciné ce mélange un petit peu de douceur, de dureté, d'explosivité, de combativité, et en même temps capable de fondre devant un homme. C'est assez fascinant. Et puis c'est un mythe.
C'est un mythe, c'est vrai, oui. C'est une légende.
C'est une légende,
absolument. Nous avons ouvert cette émission avec Downhearted Blues, son premier enregistrement pour Columbia en 1923. Elle a alors déjà une trentaine d'années. Vous évoquez cette fameuse séance de studio, page 129, soit après un bon tiers de votre récit. Cela veut-il dire que son épopée fut un chemin de croix avant de parvenir à la reconnaissance unanime.
Ah bah c'est un chemin de croix, puisque c'est une femme de la campagne, puisqu'elle naît à Chattanooga, dans un bled assez paumé, hein, à la fin du 19e siècle. Et donc évidemment, pour ces femmes-là, c'était soit être femme de ménage, soit aller ramasser encore un peu de coton dans les plantations, puisqu'il y en avait encore à ce moment-là. Et donc, il y avait pour elle, finalement, les minstrel shows, hein, ces caravanes itinérantes qui parcouraient le sud des États-Unis, où l'on présentait des dompteurs, des clowns, des acrobates, et au milieu de tout ça, il y avait même des dompteurs de serpents, et au milieu de tout ça, il y avait un chanteur de blues un peu perdu qui essayait de chanter ses rengaines et tout ça. Et donc, pour une chanteuse de blues un peu comme Bessie Smith, la meilleure manière de survivre, c'était de prendre le chemin de la route. Mais c'était un chemin difficile, parce qu'évidemment, c'était violent, il y avait des brigands, il y avait des vols, il y avait la ségrégation, enfin bref, c'était vraiment un chemin de croix. Et donc, pour arriver de Chattanooga à la campagne, à Harlem, à New York et au studio d'enregistrement, évidemment, elle a dû faire un chemin de croix, d'autant que les producteurs, à l'époque, la trouvaient trop noire. Hein, parce qu'ils voulaient effectivement enregistrer des femmes noires, mais il ne fallait pas qu'elles aient le teint trop noir. Il fallait qu'elles aient un teint acceptable pour le public blanc. Donc un peu café au lait, très civilisé, hein, entre guillemets, c'est ce qu'ils disaient. Très occidentalisé, hein, c'est ce qu'ils disaient aussi. Et donc, Bessie Smith, avec son côté volcanique et tout, sa noirceur, n'incarnait pas vraiment une femme qui pouvait être à la mode et qui pouvait séduire les deux publics, le public noir et le public blanc.
Il y a beaucoup de personnages essentiels dans la vie de Bessie Smith, des rivales comme des confidents ou des chaperons. Qui admirait-elle et de qui se méfiait-elle ?
Elle admirait beaucoup Ma Rainey. Alors Ma Rainey, c'est un peu injuste, parce que Ma Rainey est très peu connue, mais il faut dire que c'est une femme de l'ancien temps, puisqu'elle a commencé sa carrière au début du XXe siècle. Elle avait à peu près 10 ans de plus que Bessie Smith. Et c'est Ma Rainey qui, la première, a repéré Bessie Smith et donc l'a prise dans un minstrel show. Alors on a prétendu que Ma Rainey avait enlevé Bessie Smith à leur gamine. Hein. Ça arrivait quelquefois qu'on enlève des artistes noirs pour les faire jouer, un petit peu comme les marins autrefois qui étaient enlevés pour aller dans des bateaux de la marine à voile. C'était un petit peu le même genre. Et on a prétendu aussi que Ma Rainey et Bessie Smith avaient une histoire lesbienne entre les deux. Bon, c'était un peu fou, elles en riaient elles-mêmes. Donc elle admirait beaucoup Ma Rainey et elle a beaucoup appris de Ma Rainey. Et Ma Rainey aujourd'hui est un peu oubliée parce que Ma Rainey est restée un petit peu dans le sud. C'était une femme dont le public était campagnard, paysan, et elle a assez peu bougé. Elle est liée aussi au minstrel show. Ses enregistrements, c'est entre 23 et 28, mais à partir de 28, on juge son style démodé, donc elle n'enregistre plus et elle prend sa retraite en 1930 parce que sa façon de chanter était démodée. Elle avait enregistré aussi chez Paramount, alors que Bessie Smith, elle, enregistre chez Columbia. C'est toute la différence. Paramount, ils avaient un matériel relativement rudimentaire et Columbia, c'était un matériel relativement moderne. Et donc, c'est toute la différence qui a fait que Bessie Smith a fini par dépasser son mentor. Donc, elle admirait beaucoup Ma Rainey. Pour celle dont elle se méfiait, alors elle se méfiait à peu près de tout le monde. Ethel Waters, dès qu'il y avait une femme, qui voulait jouer, chanter du blues, elle ne voulait pas parce que c'était elle la chanteuse de blues. Donc elle faisait des drames dans les théâtres et quelquefois elle terrifiait les producteurs. Elle disait, cette femme ne peut pas chanter du blues, c'est moi la chanteuse de blues. Donc elle faisait régner une certaine terreur comme ça auprès de ses pairs et auprès de ses rivales.
Durant sa brève mais intense carrière, Bessie Smith va enregistrer avec les jeunes virtuoses de l'époque, Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Coleman Hawkins, mais il y a un titre sur lequel vous insistez dans votre livre, c'est Backwater Blues. Pourquoi ?
Backwater Blues, d'abord, c'est un titre qui a été écrit par Bessie Smith. Alors, il faut savoir que Bessie Smith, elle a arrêté l'école très tôt, donc elle n'était pas une écrivaine très très brillante, certainement, mais enfin, elle a écrit quand même, parce qu'évidemment, il y avait des personnages dans le milieu musical américain. Je parle de Lovie Austin, par exemple, qui était une intellectuelle qui roulait dans une petite Studsberg 4, parce que c'est aussi l'invention de la voiture cette époque-là. Et elle apprenait à Bessie Smith à écrire, elle avait le style, elle avait la manière, elle avait les lettres, elle avait le côté intellectuel. Donc elle a beaucoup appris aux musiciennes à écrire. Et donc Bessie Smith a commencé à écrire. Et alors avec Backwater Blues, c'est absolument extraordinaire. C'est qu'elle, le thème, c'est les crues du Mississippi en 1927. Et elle le sort en février 1927. Or les crues, nous le savons, c'est plutôt dans l'été suivant. Donc elle a eu assez de flair pour écrire un texte et un magnifique texte sur les crues du Mississippi. Et quand il y a eu Katrina il y a quelques années, Backwater Blues, tout le monde aurait pu chanter ce morceau parce qu'il n'a pas pris une ride. Il raconte la pauvreté, les noirs en bar et les riches qui se sauvent très bien. Ben, il raconte un peu ce que la Nouvelle-Orléans a mis au grand jour pendant Katrina, c'est-à-dire que c'était une ville pauvre, un état pauvre. Et c'est ce que raconte Bessie Smith, et c'est pour ça que ce morceau reste un morceau intemporel, éternel, et qu'il n'a pas pris une ride.
Vous y consacrez presque un chapitre entier.
Oui, parce que c'est un des morceaux les plus importants, parce que Faulkner et Langston Hughes, deux grands écrivains, Faulkner on le connaît, c'est prix Nobel de littérature, dans Si je t'oublie Jérusalem, il raconte aussi les crues du Mississippi en 1927. Langston Hughes la raconte, mais on se souvient surtout de la chanson, comme quoi, parfois, quelques lignes de chanson arrivent plus, atteignent plus la postérité que des grands romans de grands écrivains.
Écoutons ce classique de Bessie Smith accompagné par James P. Johnson en février 1927.
When it rains 5 days in the sky, sun dark as night. When it rains 5 days in the sky, sun dark as night. Then trouble taking place in the lowlands at night.
Backwater Blues, Bessie Smith en 1927 dans les studios Columbia de New York. Stéphane Quéclin, faut-il connaître le contexte de l'époque pour apprécier la musicalité de Bessie Smith ?
Je ne crois pas, en fait, parce que son style, il est tellement moderne, il est tellement puissant. Le blues parle du cœur, hein, c'est les tripes qui parlent. Donc je crois que c'est... Par rapport à Marinette, par exemple, qui est donc la mentor de Bessie Smith, elle, il faut un peu connaître le contexte, parce qu'elle se promenait avec des bijoux, des boas, enfin bref, elle était dans les minstrel shows, dans la campagne du Sud, hein, cette campagne un peu mystérieuse, un peu mystique. Alors que Bessie, elle a effectivement voyagé, elle était à Harlem, à Philadelphie, et donc elle est assez urbaine. Hein, donc évidemment, on n'a pas besoin de saisir le contexte. La pauvreté, malheureusement, existe toujours. Le racisme, malheureusement, existe toujours. Les couples qui ne s'entendent plus, et ça, c'est un des thèmes de Bessie dans Young Woman Blues. Elle se réveille, elle regarde son oreiller et son homme est parti. Hein, ça arrive souvent chez Bessie Smith. Bon, ça nous est arrivé à nous aussi quelquefois. Hein, bon, ça fait partie de la vie. Et donc, elle raconte la vie. Donc, on n'a pas besoin de saisir le contexte social et politique de l'époque.
Bessie Smith était-elle seulement une chanteuse de blues ? J'entends comme une complainte gospel dans sa voix. Est-ce que je me trompe ?
C'est possible. Elle n'est pas beaucoup à l'église, un petit peu comme ça. Elle ne passe pas, contrairement à beaucoup de chanteuses comme Aretha Franklin, ou que nous connaissons, qui effectivement sont passées par l'église, par le gospel. On ne peut pas dire, à un moment donné après, sur le tard, elle est allée effectivement un peu à l'église. D'ailleurs, elle exigeait que ses musiciens y aillent, parce qu'elle a eu, peut-être une rédemption, quelques remords, un peu de culpabilité. À force d'avoir chanté le blues profane. C'est vrai que si on parle dans l'histoire de la musique noire, vous avez d'un côté la musique sacrée et de l'autre côté la musique profane.
Et alors, le gospel, voilà. C'est la musique sacrée, voilà. Et le blues,
exactement.
C'est la musique profane.
Et pour la plupart des chanteurs noirs, jouer du blues, c'était le péché. C'était pas bien du tout. Donc vous aviez des chanteuses qui changeaient de nom quand elles chantaient du blues. Or, Bessie Smith n'a jamais changé de nom, elle n'a jamais eu de problème avec ça. D'ailleurs, elle picolait, elle buvait. Et donc c'était quelqu'un absolument pas politiquement correct, qui vivait libre, comme elle l'entendait, dans une décennie à la fois ségrégationniste avec la prohibition, mais ça ne l'empêchait pas de faire comme elle l'entendait et d'être libre.
Quand elle chante St. Louis Blues dans le court-métrage de 1929, accompagné d'un chœur gospel, n'est-elle pas à la frontière du profane et du sacré ?
Oui, et d'ailleurs, on a beaucoup reproché à St. Louis Blues, à ce petit film, d'avoir mis des chants derrière. Parce qu'on pense qu'évidemment, le chant de Bessie Smith aurait largement suffi à atteindre cette puissance. Et puis, je ne sais pas, ils avaient un peu peur. C'était la première fois qu'elle arrivait devant une caméra. Et d'ailleurs, la dernière fois, c'était des rares images qu'on a eues. On n'a pas d'autres images de Bessie Smith. C'est un document donc exceptionnel. Et puis, ils ont mis un chœur gospel. Ça, c'est une idée des producteurs, craignant que bon, le chant de Bessie soit un petit peu trop rude pour un public blanc ou un public urbain. Et en fait, ils ont mis ça et c'est un peu dommage. Et le film a eu une carrière très mouvementée parce qu'on ne l'a plus vu, il a disparu. Les mouvements noirs ne voulaient plus entendre parler de ce film parce qu'ils estimaient que ça donnait du grain à moudre au racisme, que l'image de la femme noire était une image négative. Donc il a fallu vraiment attendre longtemps. Et après, le film est réapparu en France parce qu'on a fait quelques projections en France par Hugues Panassier. Et donc,
Rappeler qu'il y a Hugues Panassier,
c'était un grand critique de jazz qui adorait donc le sud des États-Unis, dont se moquait d'ailleurs Boris Vian, qui adorait la Nouvelle-Orléans, qui n'était pas tout à fait à gauche. Hein. Curieusement, il était plutôt à droite, mais en fait, c'était un amoureux de jazz et ça a été un passeur un petit peu de blues et de jazz au sein de notre pays. Et donc, on peut lui rendre hommage pour ça. Et il a organisé une projo sur Saint-Louis Blues dans les années 30 pour faire découvrir aux Français cette grande artiste. C'était juste, elle venait juste de mourir et elle n'avait jamais traversé l'Atlantique pour aller jouer en Europe.
Pour moi, c'est l'interprétation la plus poignante d'un blues par Bessie Smith. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je pense aussi. Oui. Il y a la version avec Louis Armstrong, évidemment, Saint-Louis Blues, hein, parce qu'elle a réussi à faire quelques titres avec Louis Armstrong, mais vous me direz Ma Rainey aussi. Mais le style de Bessie est tellement moderne et en même temps, à ce moment-là, Louis Armstrong commence à devenir le grand musicien qu'il est. Donc on entend bien sa trompette, on entend bien son intensité derrière. Et Bessie, elle arrive tout à fait bien à lui donner un petit peu la réplique. Et effectivement, c'est l'un des plus grands morceaux. Bon, après, elle aura d'autres musiciens, Jack Teagarden dans les années 30, quand John Hammond la repêchera, alors qu'elle n'a plus de studio ni de contrat d'enregistrement. Et grâce à lui, elle fera ses ultimes enregistrements qui sont très très bons aussi. Et c'est dommage parce qu'elle aurait, dans les années 40, certainement eu une grande carrière aussi de chanteuse.
Quoi qu'il en soit, voici un extrait de St. Louis Blues, Bessie Smith, en 1929.
My man's got a heart like a rock cast in the sea. My man's got a heart like a rock cast in the sea. My man's got a heart like a rock cast in the
Louis Blues, Bessie Smith devant les caméras de Dudley Murphy en 1929. 1929, c'est aussi l'année du krach boursier aux États-Unis qui va conduire à la grande dépression des années 30. Est-ce que Bessie Smith subit cette crise économique majeure ? En d'autres mots, comment traverse-t-elle les années 30 ?
Ah, c'est pas bien du tout. En fait, elle le subit, effectivement, comme la plupart, sauf qu'elle le subit un peu après. Hein. Elle a tellement d'aura. En plus, les rubriques People continuent un petit peu de raconter sa vie, ses scandales, ses amours. Et donc, elle est toujours un petit peu présente dans les journaux. Mais c'est vrai que le blues commence à passer de mode. Là, on entre un petit peu dans l'ère du swing, hein, du jazz swing, avec des chanteuses un petit peu bimbo, hein, ce qu'on appelait les canaries, hein, des chanteuses qu'on mettait un petit peu comme des potiches devant des grands orchestres qui faisaient ce qu'elles avaient à faire, mais enfin, c'était pas des grandes, grandes voix non plus. Et donc, les grandes voix noires comme Bessie Smith, bah, elles passent un petit peu de mode. Et effectivement, les disques vendent un petit peu moins bien. Donc, elle va quitter Columbia quelques années. Elle rencontre un bootlegger, alors là c'est aussi un personnage absolument flamboyant dans l'histoire de Bessie Smith, c'est Richard Morgan qui est l'oncle de Lionel Hampton, qui est un personnage qui a fait fortune dans le trafic d'alcool, qui était un ami d'Al Capone, enfin bref, un type tout à fait recommandable comme on peut l'imaginer, et qui adorait, aimait beaucoup Bessie Smith et a essayé de financer, de la financer, de l'aider financièrement, parce qu'évidemment, parce que Bessie Smith elle avait aussi à charge sa famille, elle avait quand même son mari médiocre et qui n'arrêtait pas de la harceler, qui la poursuivait un petit peu de sa vindicte et de son amour déçu. Et elle avait ses sœurs aussi qui vivaient mal, jalouses. Et donc, elle, à Philadelphie, elle avait une maison avec toute sa famille qui était là et c'est elle qui payait à peu près tous les caprices des uns et des autres. Et bon, au bout d'un certain temps, elle n'avait plus de moyens, plus d'argent. Donc, les années 30 ont été un petit peu tumultueuses pour elle. Et puis, il a fallu, heureusement, que John Hammond, le grand, grand découvreur... Alors, qui est John Hammond? C'est quand même quelqu'un qui a repêché Bessie Smith, qui a découvert Billy Holiday,
Count Basie,
qui a découvert Bob Dylan, Bruce Springsteen plus tard, enfin bref, c'est un des personnages les plus fondamentaux de l'histoire de la musique américaine. Puisqu'on parle de Billy Holiday, effectivement, Billy Holiday devient un petit peu la nouvelle grande chanteuse noire, donc un peu plus suave, un peu plus douce, un peu plus acceptable,
un peu plus jazz.
Un peu plus jazz aussi, effectivement. Et donc, dans ce cas-là, ben, le blues ben, traverse l'une de ses énièmes traversées du désert, parce que le blues a fait les montagnes russes tout au long du XXe siècle. De temps en temps, il était à la mode, tantôt il ne l'était plus. Et Bessie Smith a un petit peu subi la dépression. Les minstrels, hein, les fameuses caravanes, ne peuvent plus la prendre, l'accueillir, parce qu'elles font faillite. Donc voilà, donc elle se retrouve dans un pays quand même assez sinistré. Et elle attend qu'on vienne la rechercher. Et voilà, elle toujours avec ce sale caractère qu'elle a, parce que les gens se méfient. Elle n'est pas commode quand même. Hein. Je me souviens, quand elle est arrivée chez Columbia, elle a fait un scandale parce qu'il y avait des cachets qui ne lui étaient pas versés.
Exactement.
Elle a mis à sac le bureau de Clarence Williams. Enfin, bref, quelqu'un de pas facile. Donc les gens se méfient un petit peu. Voilà.
Quand on arrive à la fin de votre récit, Stéphane Quéclin, on sent beaucoup d'émotion dans votre écriture, comme si vous évoquiez la disparition d'un proche. Est-ce que le fait d'avoir passé des heures, des jours, des mois à écrire, à compter son épopée, vous a rapproché d'elle en quelque sorte?
J'ai toujours été proche d'elle. Depuis que j'ai lu les lignes de Mesmero sur elle, quand il parle de sa féminité dans La rage de vivre, je suis proche d'elle. Hein. Quand mon père est décédé, j'avais mis un extrait de Young Woman Blues qui était paru dans Le Monde, où elle se retourne et son homme est parti, l'oreiller est vide. Voilà, donc c'est pour moi, effectivement, elle incarne tellement la vie. Et en plus, j'ai eu la chance d'aller au Riverside Hotel, là où elle est morte. Et c'est un mausolée, en fait, qu'ils ont gardé un petit peu tel quel. Il y a des bouquets de fleurs, il y a des petits mots d'amour, il y a un portrait gigantesque au-dessus du lit. Il faut dire qu'à l'époque, c'était un hôpital. Puis c'est devenu un hôtel où ont dormi des musiciens de blues comme Muddy Waters, Aretha Franklin. C'était un lieu de passage. Et c'est une baraque qui ne paye pas de mine, un peu de bois, mais qui est d'une émotion totale, parce qu'on arrive là sur une route un peu défoncée, qui est toujours la même, comme celle qu'elle a dû emprunter la dernière fois.
Exactement.
Donc, c'est très émouvant. Moi, je voyais un petit peu la chaleur un petit peu humide de cet été finissant de Clarksdale. Donc il y a toute cette émotion-là qui m'est tombée dessus et effectivement que j'ai essayé de retrouver en écrivant cette mort qui finalement a contribué à forger le mythe de Bessie Smith.
Alors justement, les circonstances de sa disparition sont dramatiques. Est-ce que vous pouvez essayer de nous rappeler les faits?
Alors les faits sont d'abord mythiques. Elle fait une tournée dans le sud et elle doit jouer... vers Clarksdale. Et donc, Richard Morgan ne veut pas conduire la nuit parce qu'il est fatigué. Elle le pousse à conduire la nuit parce qu'elle veut à tout prix être à temps pour répéter, pour faire ça. Donc lui, il se soumet parce qu'il l'aime. Et puis on ne désobéit pas à Bessie Smith. C'est impossible. Donc il conduit. Et puis il est fatigué. Et puis voilà, en pleine nuit, un camion, il rentre dedans. Elle a le bras qui pend par-dessus la portière qui est arraché. Et donc, elle perd du sang. Alors là, le mythe arrive. C'est-à-dire que John Hammond prétend qu'il y aurait eu une ambulance blanche qui serait arrivée la première et qui aurait refusé d'emmener Bessie Smith à l'hôpital parce qu'elle était noire et que, évidemment, en pleine ségrégation, c'est impossible. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai parce que d'abord, il y a eu d'autres accidents. Il y a une voiture qui est arrivée derrière et qui, avec un couple d'amoureux, ils sont rentrés dans la voiture de Bessie Smith. Enfin, bref, il y avait une espèce de désordre là-dedans. Il y a deux ambulances qui sont arrivées, une ambulance qui a emmené Bessie Smith à l'hôpital, qui est maintenant donc le Riverside Hotel, et là, ils l'ont mise sur une planche, sur un lit, et là, elle est morte après avoir perdu trop de sang en attendant que les ambulances arrivent. Mais John Hammond, finalement, en attaquant le Sud, il attaque la ségrégation. Peut-être c'est-il ce qu'il fait, parce que évidemment, il voulait attaquer la ségrégation et mettre en accusation les États du Sud en disant, vous voyez, à cause de la ségrégation, vous avez tué l'une des plus grandes chanteuses de blues de l'histoire du XXe siècle. Et effectivement, ça a sans doute contribué à affaiblir un peu plus la ségrégation. Après, son histoire a été démentie, mais la force de l'accusation, un petit peu à la Zola, finalement, de John Hammond, a fait son œuvre. Et les États du Sud ont très mal pris cette accusation, parce qu'elle a été prononcée dans Downbeat. Il y a vraiment eu un impact absolument considérable dans tout le pays des propos de John Hammond.
Bessie Smith disparaît donc le 26 septembre 1937 à 43 ans dans un hôpital de Clarksdale, devenu, vous le disiez, depuis un hôtel, le Riverside Hotel. Peut-être que finalement, Bessie Smith vous a accompagné au Riverside Hotel.
Ah oui, je sentais sa présence sur la route, dans toute la région. Même je sens la présence d'ailleurs de Robert Johnson. C'est quand même un endroit qui reste hanté. Hein. C'est assez fabuleux.
Stéphane Quéclin, ce fut à nouveau un bonheur de converser avec vous. Je rappelle que votre ouvrage Bessie Smith, des routes du Sud à la Vallée Heureuse, est disponible chez Castor Music et mérite vraiment une lecture attentive, car il s'agit d'une œuvre intelligente et pertinente sur l'Amérique des années 20 et 30. Merci à vous.
Merci.
Et félicitations. Grâce à vous, nous débutons d'ailleurs une série d'émissions consacrées à la culture sudiste, puisque nous nous sommes rendus récemment dans le Tennessee et le Mississippi pour toucher du doigt l'histoire de la communauté africaine-américaine depuis les années 60. Nous vous emmènerons donc le week-end prochain à Memphis, où se tenait il y a quelques jours, du 16 au 20 janvier 2018, l'International Blues Challenge, une compétition amicale et musicale qui réunissait des musiciens du monde entier autour d'une passion commune, le blues. Ce reportage réalisé par Nathalie Laporte vous sera proposé avec le concours précieux de Memphis Travel et American Airlines, sans qui nous n'aurions pas pu nous rendre sur place, cela va de soi. Et puisque nous évoquions le début du XXe siècle dans cette émission, je vous recommande également un petit livre illustré signé Sébastien Trondelet et Valérie Pommier, qui raconte la petite histoire d'une musique extraordinaire, le ragtime et son double, le boogie-woogie. Le tout est mis en image par Christophe Chabouté et paraîtra le 8 février aux éditions Les Rêveurs. Vous savez tout, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.